Fréquence électrique.
L'émission métal de Radio Campus Paris. Le métal, c'est maintenant.
Métalleuses et mélomanes de tout poil, bonsoir et bienvenue dans Accords électriques, l'émission métal de Radio Campus Paris. Bonsoir Kaïsa.
Bonsoir.
Bonsoir Dame du Métal.
Bonsoir.
Bonsoir Onur.
Bonsoir.
Ça va?
Très bien.
Bien, bien, bien.
Eh bien parfait, ce soir on fera un point comme d'habitude sur les sorties de métal mélodique et symphonique qu'il ne fallait pas manquer. On vous passera d'ailleurs en avant-première un extrait du prochain Moonspell Extinct. On reviendra également sur la sortie du très attendu troisième album de Wisdom Symphony for Hopeless God, un album qui nous a foutu une sacrée claqué dont nous avons pu parler avec le groupe au début du mois de février. On parlera également avec Frankie Constanza, batteur de Dagoba, mais qui viendra nous présenter son nouveau projet Blazing War Machine. Enfin, on terminera avec une nouvelle archive, question de se quitter un peu, avec un peu de nostalgie dans les oreilles. Voilà, ça se passe dans un camp électrique, et puis ça commence maintenant.
Let's go.
Vous êtes bien dans Accords électriques sur Radio Campus Paris 93.9 et vous venez d'écouter Necropolis, extrait du nouvel album de Coq, Keep of Calessine, Epistemology. Donc justement, en parlant du groupe, 5 ans après la... Coq, donc Keep of Calessine, 5 ans après l'album Reptilian, le groupe revient à son zénith, aussi grandiose qu'une scène de bataille d'un film de Peter Jackson.
Bah, si c'est celle du Hobbit, je suis pas trop fan par contre. Hein.
Bon, en effet, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le label et de mon côté, je serais un peu plus mesuré. Faut dire que la formation se retrouve réduite à 3 musiciens puisque le chanteur T-Bone ou T-Bone ou T-Bon a été dégagé. Voilà, il était plus très bon et en fait de sorte qu'aujourd'hui le frontman n'est autre que le leader et désormais chanteur Obsidian Sea.
Merci. Et justement par rapport aux chroniques, tu disais que t'étais un peu mesuré.
Ouais, j'étais un peu mesuré. Les chroniques jugent l'album de Coq un peu mitigé, un peu maussade. Et force est de constater que le groupe a essayé de faire évoluer son style musical vers des contrées un peu plus black et death progressif un peu plus lumineuses. Et justement, ces contrées qui sont incarnées dans la pochette, qui est l'œuvre du studio Designation Jean-Michel. Ou Designation Jean-Michel.
Alors, bon.
C'est mon dé... Alors ça vend du rêve, hein. Donc,
c'est effectivement, c'est le nom du graphiste. Bon, je sais pas s'il s'appelle vraiment Jean-Michel. Mais c'est le résultat d'un concours de graphistes parce qu'en fait ils se sont dit tiens, on n'a pas de graphistes, on est dans la merde financière, si on proposait à nos fans de nous proposer des couvertures.
Et c'est vrai que. Et donc là, Jean-Michel est arrivé. Quoi.
Jean-Michel est arrivé et justement dans une interview qu'il a adressée récemment, Pianse disait que bon, éventuellement ils pourraient retravailler ensemble.
Sacré
chose. Et que et éventuellement ils pourraient aussi développer cette participation des fans en les mettant à contribution notamment sur la composition des morceaux. Ils disaient ouais, ça serait génial si un fan pouvait voir son propre riff jouer sur scène. Voilà, c'est l'avenir de la musique où finalement le public joue à la place des musiciens et les musiciens empochent l'argent à la place du public.
Tout à fait.
Accords électriques. Accords électriques.
Alors le 17 février dernier est sorti le troisième album du groupe de métal symphonique français Wisdom, ou Wisdom comme certains le prononcent, un groupe qui en dépit de ses qualités musicales indéniables a souvent fait les frais de la critique, notamment en raison de l'instabilité de ses chanteuses, ici d'ailleurs on l'a très souvent comparé à Sirenia, et il faut l'avouer que ce dernier album remet un peu les pendules à l'heure, Vanessa.
Oui, c'est un bon album, une bonne surprise, un super album français. Hein. Le groupe a trouvé sa voix, la chanteuse, elle assure aussi bien... la voix opéra, que le chant hurlé, que le chant clair. Et on reconnaît vraiment bien l'empreinte et le style wisdomien.
Et Kaysar.
Ben moi je trouve que le groupe pour le coup sur cet album on sent que le groupe a trouvé un équilibre qui est franchement super, je veux dire punchy. Enfin on sent que ça met la pêche et faut juste espérer qu'il continue sur les prochains albums. En tout cas c'est un très très bon album que tout cas on vous conseille fortement d'écouter d'une oreille très très attentive.
Alors le 7 février dernier, le groupe présentait l'album au 369 qui est un bar de Châtelet. On en a profité pour faire le point avec Vince et Marie Rouillet, donc la nouvelle chanteuse déjà depuis 2 ans, en commençant par une question un peu taquine mais forcément évidente. Alors Marie, c'est la bonne ?
Ah, alors Marie, évidemment que c'est la bonne. Effectivement, il y a eu plusieurs chanteuses qui sont passées par le groupe. Si aujourd'hui je devais faire une audition avec les 4 chanteuses à l'aveugle, il n'y a aucun doute que je sais laquelle je choisirais, ce serait Marie. Voilà, donc ça répond à ta question. C'est vraiment, pour moi, la voix de Wisdom, celle qu'on attendait et celle avec qui on a le plaisir à être, à jouer, à être ensemble. Et on fait la musique qui nous plaît et ça, c'est super. Et en plus, vocalement, encore une fois, elle a une variété de timbres, que ce soit du lyrique au rock, qui est vraiment extraordinaire et qui est vraiment une source d'inspiration. Donc c'est vraiment la meilleure chanteuse pour Wisdom.
Ben pour moi, Wisdom, c'est le groupe dans lequel je peux m'épanouir, quoi, parce que je peux justement faire chanter tous mes registres. Donc pour le coup, moi aussi, je suis bien avec Wisdom, donc il n'y a aucune raison que ça change, en fait. Donc si ça peut répondre à la question, est-ce que va y avoir encore des changements ? Non, de ce point de vue-là, il n'y en aura plus.
Ce qui a le mérite d'être clair, oui, désolé pour la petite coupe un petit peu brusque. Alors forcément, maintenant que le line-up semble fixé, on a voulu en savoir un peu plus sur la manière dont chaque musicien travaille au sein du groupe en les interrogeant sur leur processus de création.
Chacun propose d'abord des structures soit basé sur des riffs, soit basé sur de l'orchestre pour Marc, pour Xavier, soit basé sur du clavier. Donc, chacun propose des structures de morceaux et moi j'essaye de trouver des idées de mélodies. J'en ai passé quelques-unes à Marie donc, qui a elle-même trouvé des idées de mélodies. Puis on regarde où est-ce que ça peut mener. Je fais une orchestration rapide pour voir en 30 secondes pour voir où est-ce que ça va mener. Comme ça on peut se faire une idée. Et une fois que ça c'est prêt, on peaufine en répète l'ensemble des instruments, les relations entre la basse, la batterie, la guitare. On teste pour voir comment ça va sonner en live. Et comme ça on construit notre maquette. Après, une fois qu'on a construit ça sur tous les morceaux, on choisit les morceaux définitifs et on construit le pilote qui va vraiment servir à tout enregistrer.
Donc de toute évidence, la qualité de ce nouvel album tient justement au fait que Marie se soit intégrée au point de pouvoir nourrir le travail de chacun. Enfin, nous avons demandé au groupe de nous parler un peu plus du fond de Symphony for Hopeless God, un album dont la thématique trouve une signification, une résonance toute particulière en ce début d'année.
Symphony for a Hopeless God, c'est sur la relation entre Dieu et les hommes au travers de la religion. Quand on voit la pochette et aussi une des chansons qui s'appelle Tears of a Hopeless God, ça entre en résonance avec ce qui s'est passé il y a pas très longtemps. Un des thèmes, c'est d'imaginer un Dieu qui verrait qu'est-ce que les hommes font en son nom. Et quand on voit ce que les hommes font au nom des dieux en ce moment à travers le monde, et ben on se rend compte que c'est d'une actualité éternelle et à la fois éternelle et brûlante. Et c'est quelque chose qui n'était pas voulu au moment où on l'avait écrit, parce que cette chanson-là, elle a été écrite il y a un an. Si on regarde le track listing, c'est toutes les chansons, c'est un point de vue sur la religion et comment elle influence les hommes. On pourrait faire la liste là, mais While the Witches Burn, ça parle de religion forcément. Tears of Hopeless God, c'est la religion. Let's Play with Fire, c'est une chanson sur la religion aussi, même si on ne s'en rend pas forcément compte au début.
vient de s'écouter Let's Play With Fire de Wisdom, extrait de leur tout dernier album Symphony for a Hopeless God qui est sorti le 17 février dernier. Alors à noter que les petits extraits que vous avez entendus de l'interview de Wisdom, vous pourrez les retrouver dans le nouvel article de cette émission. En fait, vous aurez juste à regarder sous le petit podcast de l'émission. Il y aura un podcast spécial, c'est un bonus podcast avec près de 45 minutes d'interview et de son. On a pu partager aussi un peu des influences de Wisdom avec d'autres morceaux en exclusivité. Et merci d'ailleurs beaucoup à Vince, Marie, Marc et puis il y avait aussi Régis de nous avoir accordé un peu de leur temps ce soir. On leur espère beaucoup de succès pour ce troisième album qui était vraiment une réussite.
Accords électriques, accords électriques, accords électriques, accords électriques, accords électriques.
Alors, il y avait évidemment Wisdom qui a sorti son dernier album, mais le mois de mars a été aussi un moment de sortie importante. Et on va commencer avec Karak Angren.
Alors, Karak Angren a sorti son quatrième album, There's Is No Fairy Tale, le 23 février chez Season of Mist. Il y a Patrick Diamani, le grand guignol Falkenbach, qui s'est chargé de l'enregistrement. Il y a évidemment Peter Tadgren, j'ai toujours du mal à le prononcer.
Je crois qu'il y a un géant trop sur ton papier.
Voilà, c'est ça. Qui joue dans Hypocrisie et Pain, qui s'est chargé justement du mixage, et Jonas Kellgren de Sentinex Scar Symmetry, qui s'est chargé du mastering. Et l'artwork est l'œuvre de l'artiste Negakinu.
Oui, très joli artwork d'ailleurs.
Et comme l'indique son titre, le groupe va rester fidèle à sa vocation de conteur d'histoire horrifique.
À sa vocation de conteur d'histoire horrifique
avec un concept album sordide sur des enfants en proie à des détraqués de toutes sortes.
Oui, c'est un album assez particulier.
Il a c'est été... mieux de le faire en allemand, t'as raison.
Oui, surtout qu'ils sont néerlandais, mais c'est bien, ça donne l'ambiance glauque. Effectivement, le dernier album qui était sorti déjà en 2011, il me semble, Where the Corpse Sings Forever, était autour d'un concept album autour d'un soldat qui allait tuer les détenus et qui était hanté par les fantômes des gens qu'il avait tués. Du coup, plein de petites histoires.
Et justement, qu'est-ce que t'en as pensé de cet album vu que tu l'as écouté en entier?
Le nouveau effectivement est très bon. Les clips qu'il annonçait laissaient pas forcément présager quelque chose d'intéressant parce que c'est des lyrics vidéo avec un peu un dessin animé un peu trash. C'était très bavard et le son n'était pas extraordinaire. Alors que l'album décèle vraiment des influences musicales classiques très bonnes. Le mixage est très très bon. Et d'ailleurs on va s'en écouter un extrait. C'est A Dreaming of a Nightmare in Eden.
Decay simply to spread. They crawl over life and nothing from death. How's the touch of fuel stops back. Eat a cyanide, we'll turn around to run away and then he'll stay into the face of a witch. She whispered a spell, crafted in hell.
À tes souhaits. Vous venez de vivre 2 minutes 37 de cauchemar.
D'horreur.
C'était Dreaming of a Nightmare in Eden, extrait du dernier Karak Angren, This is No Fairy Tale, sorti le 23 février dernier. Voilà, un morceau un peu particulier, parce qu'effectivement, comme vous l'avez noté, il n'y a que du chant growl black et il n'y a pas du tout de partie métal avec quelques orchestrations derrière. Donc c'est un morceau qui est au centre de l'album. Mais on vous conseille quand même d'aller l'écouter si vous aimez bien le black horrifique. Et d'ailleurs, maintenant, on va plutôt remonter vers le nord avec des Vikings.
Oui, avec Enslave, donc formation norvégienne de 1991, de Viking Metal hein, plus précisément, qui a évolué vers un son plus expérimental et plus progressif. Le groupe vient d'ailleurs de mettre en ligne le lyric vidéo de la chanson Turisas Dreaming. Alors Turisas Dreaming est tiré de leur 13e album quand même, hein, 13e album studio, et album studio qui s'appelle In Times, paru le 6 mars, donc vendredi dernier, via Nuclear Blast.
Et on s'écoute justement Turisas Dreaming.
Yeah!
venons d'écouter Theresa's Dreaming. Theresa's Dreaming, c'est un extrait du nouvel album d'Enslaved in Times. Et vous êtes sur Radio Campus Paris dans Accords Électriques 93.9 FM. Et on passe au reste de l'actu.
Accords Électriques. Accords Électriques. Radio Campus Paris. 93.9.
Après l'arrivée d'Isa Garcia Navas qui remplacera Laurie Lewis pour la tournée actuellement en cours, Christopher Jensen nous revient avec le nouveau clip Initial Bébé de Serge Gainsbourg, réinterprété notamment dans leur album Les Fleurs du Mal. Alors tout comme la chanson d'origine, le clip pourrait bien créer la polémique et rendre quelques femmes hystériques si jamais elle passait par là. En tout cas, on vous conseille de voir le clip pour une simple et bonne raison qui n'a rien à voir avec la musique, c'est que vous pourrez découvrir le sosie officiel de Moundir de Koh-Lanta, et rien que pour ça, ça vaut le détour.
Oui, on sent aussi qu'il y a un autre intérêt à voir le clip. Hein.
Oui, voilà, mais on vous laisse le regarder, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent.
D'ailleurs, on peut noter que Christopher Jensen s'est lancé depuis quelques semaines dans le dévoilement de son projet entre guillemets artistique. En fait, il se propose juste d'expliciter un petit peu le sens des clips, des morceaux qui ont été sortis au moment des Fleurs du Mal.
Alors, Vivek Echten, vous vous en souvenez, puisque c'est l'ancienne chanteuse de Tristania qui s'est éloignée du groupe afin de s'occuper de son enfant à naître ou à éduquer, hein, élevé. Et grand bien lui fasse, puisqu'il est grand temps de se remettre au travail. Et il semblerait que la madame ou la mademoiselle serait en train d'écrire un nouveau projet de doom metal. Et les guitares, justement, devraient être enregistrées incessamment sous peu.
Pour endormir son gosse.
Voilà.
Qui est à naître.
Voilà.
Depuis 3 ans.
Bref, nous n'avions pas de nouvelles de leur projet depuis quelques mois et pour ne rien vous cacher, on commençait un peu à être inquiets. Mais Luca Turilli sera bel et bien de retour avec Prometheus, Symphonia, Ignis, Divinus. Tout va donc pour le mieux dans la meilleure des pizzerias puisque 5 chansons ont d'ores et déjà été mixées et que l'album devrait bientôt être disponible, même si pour l'instant aucune date n'est annoncée.
Catatonia, le maître du spleen metal, va sortir fin mars un super DVD live prénommé Sanctitude ou Sanctitude. Alors l'album a été enregistré en mai 2014 à l'Union Chapel de Londres pendant la tournée de Unplugged and Reworked. Alors pour rappel, cette tournée faisait honneur entre autres aux versions retravaillées de l'album Dethroned and Uncrowned, ainsi qu'à certains vieux titres issus des albums précédents. Dans la promo est indiqué que le concert se termine sur un The one you are looking for is not here, ainsi qu'une apparition de la chanteuse norvégienne Silje Wergeland, nouvelle chanteuse de The Gathering.
Exactement, et en parlant de The Gathering, à l'occasion de leurs 25 ans de carrière, et oui déjà, le groupe sort une compilation Diving into the Unknown qui est disponible via leur site internet.
Soilwork enregistre tout juste un nouvel album qui sera, j'espère, le digne successeur de The Living Infinite qui était sorti en 2013. L'album est de nouveau produit par le fameux Jens Berggren.
Le fameux
Berggren.
Et justement, par rapport aux sorties à venir, on vous a parlé en sommaire de cette émission du dernier Moonspell et c'est justement Kaiser qui nous en parlait.
Exactement, incantation lunaire des plus anciennes puisqu'elle est née en 1989 sous le nom de Morbid God. Bon, c'est vrai, dit comme ça, ça fait plus implantation de portail démonique que sage prière à la lune, mais enfin bon. Le groupe, lui, change de nom en 92 pour devenir Moonspell. Moonspell, qui nous vient donc du Portugal, comme son nom ne l'indique pas du tout, était d'abord orienté vers le black metal jusqu'en 2003 et leur album Antidote, qui marque un tournant dans leur discographie puisqu'il est tiré du roman du même nom de l'écrivain portugais José Luis Peixoto.
Alors justement, on parlait en 2012 dans notre émission spéciale littérature des influences littéraires dans le métal. D'ailleurs, on vous invite à consulter les archives qu'on est en train de mettre en ligne et à jour sur le nouveau site de Radio Campus Paris.
Voilà, qui est tout beau, tout neuf, hein, on le rappelle, et vous pourrez retrouver au fur et à mesure qu'on pourra les remettre toutes les émissions des 3 saisons dernières déjà.
Oui, déjà.
Pour revenir sur Moonspell, en 2005, donc, le chanteur Fernando Ribeiro sort à son tour un recueil de poèmes, comme quoi on peut être à la fois poète et faire du métal, c'est pas incompatible. Mais pour revenir au groupe, après une tentative 100 fois avec Night Eternal en 2008, puis un double album pas très convaincant avec Alpha Noir Omega White en 2012, qui opposait une facette plutôt rock gothique à une facette black death, ils nous reviennent cette année avec Instinct, que bah, pour ma part j'ai trouvé très 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 bon.
Oui, dame.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Alors au début j'ai été un peu déçu et sceptique parce que l'album il est moins sombre et j'espérais au fond de moi-même un nouveau Night Eternal, mais après plusieurs écoutes, je suis vraiment satisfaite de l'album. Comme disait Bess, il est beaucoup plus lumineux et dansant et le groupe a décidé de prendre parti sur des titres un peu plus accrocheurs et qui vont à l'essentiel. Et bon, je rajouterais pour les sceptiques que l'album est resté quand même très gothique. Donc à écouter.
Bref, pour vous donner un petit avant-goût de Instinct, on vous propose d'écouter tout de suite A Dying Breed.
Breed.
On on vient d'écouter A Dying Breed du
Breed.
Breed.
Mais voilà, mais c'est ça.
Et il se fout de ma gueule juste avant, il fait la même connerie en reprenant.
Effectivement, oui, deux extraits de Extinct, le dernier Moonspell qui va sortir. Il va sortir dans quelques semaines. Le groupe sera le 31 mars au Trabendo avec Septic Flesh et d'autres guests à partir de 18h30, ce qui nous fait une superbe transition pour parler du reste des sorties et des concerts à venir.
Exactement, et on va parler très rapidement de Johnson Storm, le nouveau groupe constitué d'Ariane Lucassen et Anneke von Giesbergen, qui dévoileront le 23 mars le résultat de leur collaboration de Diary. Alors l'album contiendra deux CD avec les mêmes chansons mais qui auront deux orchestrations différentes. Le premier plutôt orienté folk et acoustique et le second purement orienté metal orchestral. Et le premier single Endless Sea, qui est donc sur la version Storm de mémoire.
Donc la version métal.
Voilà, et d'ores et déjà disponible à l'écoute. Et à noter que les deux compères seront de passage à Paris au Divan du Monde le 22 avril.
J'y serai d'ailleurs.
Exactement, et je pense que moi aussi.
Moi aussi.
Nightwish revient nous voir avec Endless Form Most Beautiful.
Endless Forms of Beautiful.
Beautiful. J'ai beaucoup de mal avec le titre, qui est actuellement au cœur de la polémique, puisque le groupe vient de dévoiler le single et a publié
Elan,
voilà.
Elan,
on sait pas. Elan, comme l'animal. Il a publié un long message sur Facebook en répondant à un internaute qui avait téléchargé l'album et en le menaçant personnellement de poursuite. Alors, à en juger par le nombre de réactions, le groupe ne s'est pas forcément fait que des amis pour le coup. Mais enfin, le mieux, c'est quand même de vous faire une idée par vous-même de leur album. Vous pouvez toujours regarder l'étrange clip, et il faut bien le dire, assez raté de Elan.
Même comme la chanson.
Voilà, qui n'inaugure rien de bon pour l'album, mais enfin, on peut toujours croiser les doigts.
Bon, du même avis, hein, la chanson est pas top, le clip est pas top. Bon, pour dédouaner le groupe, je pense qu'on a mis la barre un peu haute, hein, parce que quand même, Fleur Jansson avec Nightwish, c'est du lourd. Mais bon, restons positifs, car en cette nouvelle année de la chèvre, hein, nouvelle année chinoise, je suis sûr que Thomas s'est bien décarcassé pour nous pondre un bel album à suivre.
Bon, sinon, au prochain concert qu'on doit pas louper.
Prochain concert, alors le 23 mars, il y a Andy Ferrum au Bataclan, donc c'est la sortie de l'album One Man Army le 20 mars. D'ailleurs, dans la précédente émission, un petit erratum parce que...
Effectivement, on avait passé un extrait Lady in Black, qui est en fait une reprise de Uriah Heep, qui était présent sur Xiaomi War Metal, qui était un EP sorti en 2014.
Un EP de 4 titres, justement. Le 24 mars 2015, Amarante, hein, à la machine du Moulin Rouge à Paris.
Merci beaucoup Vanessa. Au niveau des projets qu'il va falloir suivre dans les mois à venir, il y a la formation de Black Indus Symphonique française, Blazing War Machine, fondée au milieu des années 2000 par deux membres de Dagoba. Le batteur Frankie Constanza et l'ex-guitariste Isaacar, le groupe a sorti un premier disque éponyme en 2010 et nous revient cette année avec un line-up quelque peu modifié.
Oui, bonjour Francky.
Salut à tous.
Salut Francky. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu Blazing War Machine, s'il te plaît, et son univers?
Oui, alors Blazing War Machine, c'est un groupe qui a été créé en 2005 avec mon ami d'enfance Phil, qui est le claviériste de Blazing. En fait, l'idée de départ, c'était de mixer le côté martial, percussif et power metal de Dagoba, avec le côté épique, symphonique, du métal extrême symphonique, ou je dirais même du black symphon, à la façon de Dimmu Borgir. Et du coup, avec Phil, le claviériste, on a vraiment mêlé nos influences musicales pour créer ce projet. Il y a eu quelques changements de bassiste pour arriver au line-up d'aujourd'hui, avec Adam à la basse, Irina à la voix, et le reste du groupe n'a pas changé, toujours Isaacar à la guitare, Fab à la seconde guitare et moi-même à la batterie.
D'ailleurs, à propos du changement de line-up, tu parlais d'Irina qui a remplacé Typhus. Est-ce que ça a été déterminant que ça soit une femme, même si ça reste du chant saturé et du chant Black Death? Qu'est-ce qui a déterminé ce choix?
En fait, ça s'est fait vraiment par hasard. Par le bouche à oreille à Marseille, on cherchait donc chanteur, en fait, pas forcément chanteuse, qui excellait vraiment dans les alternances death et black. Et on a eu des amis qui nous ont dit, il y a une chanteuse russe qui vient de débarquer à Marseille et qui cherche à faire des auditions avec des groupes. Donc ça s'est fait de façon vraiment très simple et naturelle.
Alors, vous venez de dévoiler un nouveau morceau, Polarity, qui est effectivement très orchestral. Moi, j'ai senti un peu l'influence de Cradle of Filth, mais tu citais Dimmu Borgir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Effectivement, ces influences nous collent à la peau et on les assume entièrement. Hein. Cradle of Filth, pour moi, ça a été un groupe qui m'a énormément influencé en fin 90 ou encore maintenant. Dimmu Borgir est énormément. Le jeu de batterie d'ailleurs de Nicholas Barker, pour moi, est vraiment fulgurant dans la partie discographique de Cradle of Filth et dans la partie de Dimmu. Je trouve d'ailleurs que mes albums préférés sont ceux où Nicholas Barker joue. Donc dans mon jeu de batterie, on peut retrouver vraiment cette influence-là.
Alors, j'ai cru comprendre que c'était le premier d'une série de morceaux que vous allez mettre en ligne, c'est ça? Et tu m'as dit hors antenne que ça allait annoncer un single.
C'est ça. Donc en fait, on réfléchissait à une autre stratégie. On a sorti un premier album en 2010 qui était complètement autoproduit. Et en fait, notre stratégie et notre logique continue vraiment dans la même direction. Maintenant, avec l'expérience vraiment du milieu professionnel de la musique, les labels s'accordent tous à dire que l'expérience d'un disque pour le vendre, c'est vraiment 3 à 4 mois, et après le disque est vraiment obsolète. Et donc, je retournais vraiment toutes ces idées dans ma tête, et je me disais que pour moi, chaque chanson d'un album devait être défendue vraiment de la même façon. Et donc, je m'étais dit qu'on allait essayer la stratégie de sortir des singles tous les trimestres, où vraiment, on mettait le paquet autant de façon musicale que visuelle, et en termes promotionnels, ça allait avoir un impact qui allait être récurrent.
Donc le prochain serait plutôt au mois de septembre ou cet été?
Non, là le premier est donc sorti le 8 février, donc on va attendre mars-avril, et je pense qu'on va sortir le second au mois de mai, quoi. Vraiment tous les 3 mois.
D'accord, merci beaucoup Francky. Bah justement, on va s'écouter Polarity de Blazing War Machine.
Merci à vous.
Vous venez de vous faire défoncer les oreilles en mode nord-ouest-sud-est par Blazing War Machine, c'était Polarity, extrait donc d'un futur single, en tout cas c'est le single que nous a annoncé Francky, et comme vous l'avez entendu, il va falloir attendre encore quelques mois pour en entendre un deuxième. Et voilà, c'est ainsi que... Oui, les conclusions sont toujours un peu dures. C'est ainsi que se termine cette émission d'Accords électriques du mois de mars 2015 sur Radio Campus Paris. Vous pourrez retrouver le podcast dès demain avec en bonus donc l'interview en entier de Wisdom et quelques extraits, notamment des annonces sur leurs prochaines dates. Vous pouvez évidemment nous laisser vos commentaires sur le site de Radio Campus Paris ou sur Facebook.
Poké-nous,
oui, effectivement, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été poké. Vous pouvez également suivre notre flux RSS et iTunes pour ceux qui savent comment ça fonctionne via Radio Campus Paris. Dans quelques instants, vous retrouvez Novo Mundo. La prochaine émission, ça sera le 5 avril de 21h à 22h, toujours sur Radio Campus Paris. Et on va se quitter d'âme avec une archive qui a été citée justement par Vince de Wisdom comme l'une de ses influences majeures.
Alors l'archive justement... C'est After Forever avec le titre Invisible Circles. Donc l'album Invisible Circles a été sorti en mars 2004 et il a été écrit et composé sans Mark Hansen qui était parti fonder Epica, vous vous souvenez. Alors l'album va raconter l'histoire d'une petite fille violentée par ses parents qui se réfugie dans les jeux vidéo.
C'est bien, c'est la thématique de l'émission.
Voilà, et avec le titre qu'on va diffuser, Sins of Idealism, c'est vraiment le titre qui est le moins facile d'accès de l'album, mais par contre c'est vraiment dans ce morceau qu'on va ressentir la rage exprimée par la petite fille qui est violentée. Et c'est au travers de ce morceau que les meilleurs riffs sont joués sur l'album et où les éléments symphoniques et choraux sont les mieux exploités.
Eh ben merci beaucoup Vanessa, on va se quitter donc avec Sins of Idealism d'After Forever.